N'est-ce pas un blasphème très grave, une révolte ouverte contre la loi de Dieu qui vient d'être commis lundi dernier par la France, dans tous ses représentants et tous ses partis politiques, par l'insertion du droit à l'avortement dans la constitution du pays? Puissent nos prières et nos pénitences de carême épargner à la France un châtiment trop rigoureux. Que cet abonnement soit en tout cas l'occasion de continuer plus que jamais les chapelets publics pour la France, tous les mercredis à 11h15 au Champ des Martyrs, ou 18h place du Théâtre Saint-Laurent ou place Jeanne d'Arc pour Angers. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'épître que l'Église nous propose en ce quatrième dimanche de carême est tiré d'un passage de la fin du quatrième chapitre de l'épître aux Galates de saint Paul. Dans cette même épître aux Galates, dans ce qui précède le passage que nous avons aujourd'hui, saint Paul cherche à prouver, contre les prédicateurs judaïsants, que la loi ancienne n'oblige plus comme telle, que le salut, la libération, doit être attribué uniquement à la rédemption du Christ. C'est ce que nous avions dans l'épître du dimanche, dans l'octave de Noël, qui était la partie qui précède le passage que nous avons aujourd'hui dans l'épître. Dans cet épître du dimanche, dans l'octave de Noël, saint Paul comparait la loi ancienne à un tuteur chargé de diriger l'humanité pendant sa minorité, mais dont le rôle est terminé avec la venue du Christ. Avec notre Seigneur, nous sommes passés à l'âge adulte, plus besoin de tuteur. Dans l'épître d'aujourd'hui, saint Paul continue son argumentation. C'est la même thèse générale qu'il poursuit. Mais ici, il apporte un argument différent, un argument tiré du sens allégorique de l'Écriture. Il pose d'abord le fait historique. Abraham eut deux fils. C'est le fait historique. Ismaël, issu d'Agar, qui était de condition servile et qui naquit selon la chair. C'est l'expression de l'Écriture. Et le deuxième fils fut Isaac, né libre et selon la promesse divine. C'est encore l'expression de l'Écriture. Et ce fils, Isaac, naquit dans la vieillesse de Sarah, sa mère. Ismaël n'eut point part à l'héritage du patriarche et devint le père des Arabes du désert, tandis qu'Isaac est l'ancêtre du peuple élu. Ce point d'histoire sainte a un sens allégorique. C'est ce que dit saint Paul. On parle encore de sens typique, c'est-à-dire que les faits dont le texte de la Bible donne le récit sont l'image anticipée d'autres réalités qui sont de la sorte exprimées d'une manière encore bien obscure dans les pages de l'Ancien Testament. Ce sens dit typique ou allégorique et le sens des réalités qui sont elles-mêmes signifiées par les mots. C'est comme un second niveau de sens qu'on rencontre lorsque, par une disposition divine, une réalité, c'est-à-dire une chose, une personne ou un événement, qui est signifiée par les mots du texte, signifie à son tour autre chose, une deuxième réalité. Vous avez les mots qui signifient quelque chose, et ce quelque chose signifie lui-même autre chose. Et cette autre chose, c'est ça, le sens allégorique ou typique. Prenons un exemple. Nous lisons dans le livre des Nombres. Yahvé dit à Moïse, « Fais-moi un serpent d'airain et place-le sur un poteau. Quiconque a été mordu par un serpent et le regardera, conservera la vie. » Le mot ici, « serpent d'airain », signifie que les Hébreux devaient effectivement fabriquer un serpent en airain, une vraie statue de serpent faite avec de l'airain. et que les Hébreux, qui étaient mordus par des serpents, quand elles regardaient cette statue, étaient guéris du poison qui leur avait été injecté par les serpents. Mais ce serpent d'airain, réel, construit par les Hébreux, signifie lui aussi autre chose. Nous avons ça dans l'évangile de Saint Jean. C'est ce que dit notre Seigneur. Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce serpent d'airain très réel signifie notre Seigneur, qui s'est fait serpent pour nous, c'est-à-dire qui s'est fait péché pour nous, qui a pris sur lui nos péchés. Et en regardant notre Seigneur, en s'associant à son sacrifice, nous sommes sauvés des blessures du serpent, du diable, de nos péchés aussi. C'est la rédemption. C'est ça le sens typique. Les mots signifient un serpent d'airain, et le serpent d'airain signifie notre Seigneur. Il en est de même ici dans ce que nous raconte saint Paul dans l'Épître. D'ailleurs, saint Paul nous donne la clé de ce langage en partie énigmatique. Il nous fait lire en clair ce qui se trouvait dans la Bible et que nous aurions pu ne pas apercevoir. Les deux femmes, Agar et Sarah, sont les types de deux alliances. Le texte ici est d'un raccourci un peu déconcertant, mais la pensée est claire. Il suffit pour la saisir de mettre en parallèle les deux séries à comparer. Agar, première série, était la femme de laquelle naquit Ismaël, d'une façon tout ordinaire. C'est ce que saint Paul veut exprimer lorsqu'il indique qu'Ismaël fut engendré d'une manière charnelle. Agar, qui était une servante, représente ainsi l'ancienne alliance, l'alliance contractée avec Moïse et le peuple juif. Cette alliance entraînait la servitude. C'est pour ça qu'Agar est une servante et elle représente cette alliance qui entraînait la servitude. Car elle reposait sur la loi de crainte. L'ancienne alliance reposait sur la loi de crainte. La parenthèse amène un rapprochement accessoire. Cette loi de crainte a été donnée sur le mont Sinaï, qui est précisément en Arabie, dans le domaine d'Ismaël. Agar, ou l'ancienne alliance, correspond à la Jérusalem actuelle au peuple juif, qui n'a pas admis encore la loi nouvelle, mais est resté en servitude sous la loi de crainte. Ismaël représente ainsi ceux qui ne peuvent revendiquer qu'une parenté charnelle avec Abraham, c'est-à-dire les membres actuels du peuple juif, du moins pour ceux qui descendent réellement d'Abraham, ce qui n'est pas le cas pour tous. La deuxième série que nous devons regarder est à peine esquissée par saint Paul, mais elle se déduit aisément. Sarah, la femme libre, représente la nouvelle alliance. Saint Paul, cependant, n'exprime pas ce second terme, mais se laisse entraîner par la vivacité de sa pensée et s'écrit tout de suite sur un ton de triomphe. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, et c'est elle qui est notre mère à tous. Il fait l'économie du développement qu'il a fait pour Agar, mais nous devons le déduire. Il apporte comme un argument, pour conforter son propos, un texte d'Isaïe montrant que la fécondité et la prospérité de l'Église ont été prédites par les prophéties en termes éclatants. Ainsi, Sarah représente une Jérusalem supérieure, qui est l'Église catholique, notre mère. Isaac fut engendré par l'effet de la promesse, ou ce qui revient au même selon l'Esprit. Il naquit miraculeusement, en effet, conformément à la prédiction de Dieu, de Sarah qui était stérile et fort avancée en âge. Ainsi l'Église nous engendre sur le modèle d'Isaac, pour la liberté des enfants de Dieu. Et ici, il nous faut faire attention, car ce mot de liberté a pris un sens tout à fait désagréable depuis la Révolution. Et un sens qui n'est pas conforme au beau concept que nous prêche saint Paul. Depuis la Révolution française, le mot de liberté signifie faire ce que nous voulons, être débarrassé de toute entrave, être indépendant vis-à-vis de toute loi morale, faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux. C'est ça la liberté révolutionnaire. Ce n'est pas la liberté chrétienne. La liberté dont nous parle saint Paul est la liberté morale, qui nous permet de faire le bien selon la loi morale donnée par Dieu. Cette liberté est ce qu'il y a de plus opposé au péché. La liberté révolutionnaire, c'est faire ce que je veux. La liberté chrétienne, c'est faire ce que je dois. C'est pas la même chose. Faire ce que je dois. Avoir la possibilité de faire ce que je dois selon la loi morale. C'est très différent. C'est ça le bon usage de la liberté. Faire ce que je dois. Maintenant, nous avons établi le sens typique de cette partie de l'histoire d'Abraham. Saint Paul passe ensuite à la critique des prédicateurs qui veulent maintenir les Galates dans la soumission aux observances de la loi, dans la servitude de l'ancienne alliance. Il poursuit donc le parallèle entre les Juifs, figurés par les fils de la servante, et les chrétiens, figurés par les fils de la femme libre. Ismaël persécutait Isaac, comme les Juifs persécutent maintenant les catholiques. C'est la suite de l'histoire. Que dit l'Écriture ? Chasse la servante et son fils. Le fils de la servante ne doit pas hériter avec le fils de la femme libre. C'est clair, tellement clair, que l'apôtre ne pousse pas plus loin et ne donne pas de conclusion. Les tenants opiniâtres de l'ancienne alliance doivent être mis de côté, et les Galates sont implicitement invités à chasser de chez eux les prédicateurs judaïsants. Les deux dernières phrases de notre épître sont une reprise générale de l'argument tout entier. C'est une fière affirmation de la liberté des chrétiens. Nous ne sommes pas les enfants d'une servante, mais d'une femme libre. Et c'est la beauté, la grandeur de l'œuvre du Christ de nous avoir doués de cette liberté des enfants de Dieu, qui nous permet d'accomplir la volonté de Dieu. Maintenant que le sens général de ce texte a été dégagé, il nous faut en faire des applications à nous-mêmes. Cette comparaison des judaïsants et des chrétiens, greffée sur celle d'Agar et de Sarah, d'Ismaël et d'Isaac, n'a plus pour nous d'intérêt aussi immédiat qu'elle en avait pour les Galates, qui étaient confrontés à ces prédicateurs judaïsants. Nous ne sommes pas soumis aux prêches des prédicateurs judaïsants qui chercheraient à nous faire pratiquer les usages surannés et pour certains ridicules du judaïsme pharisaïque. Cette épître contient cependant des leçons importantes pour nos âmes. Tout d'abord, notre religion ne consiste pas dans un formalisme rigide et figé, comme les juifs ou les musulmans le font. Notre religion est une religion selon l'esprit. Notre Seigneur veut des adorateurs en esprit et en vérité. Si nous ouvrons le catéchisme de Saint Pie X, dans sa version plus complète, au chapitre des commandements de Dieu, nous pouvons lire à l'explication du premier commandement cette série de questions et de réponses. Première question, qu'est-ce que Dieu nous ordonne par les paroles du premier commandement ? C'est la première question pour le premier commandement. Réponse, Dieu nous ordonne de reconnaître, d'adorer, d'aimer et de servir lui seul comme notre souverain Seigneur. Eh bien, deuxième question, comment accomplit-on le premier commandement ? Réponse du catéchisme, par l'exercice du culte intérieur et du culte extérieur. Le catéchisme poursuit. Qu'est-ce que le culte intérieur ? Réponse. Le culte intérieur est l'honneur que l'on rend à Dieu avec les seules facultés de l'esprit, c'est-à-dire avec l'intelligence et la volonté. Le catéchisme reprend ses questions. Qu'est-ce que le culte extérieur ? Le culte extérieur est l'hommage que l'on rend à Dieu au moyen des actes extérieurs et des objets sensibles. Culte intérieur, l'intelligence et la volonté. Extérieur, le corps, les actes du corps et les objets. Le catéchisme ne s'arrête pas là, mais continue. Peut-on avoir un culte intérieur sans culte extérieur ? Intérieur sans culte extérieur ? Réponse du catéchisme, non. Il ne suffit pas d'adorer Dieu intérieurement, dans son cœur. Il faut l'adorer aussi extérieurement, avec son esprit, comme avec son corps, parce qu'il est le Créateur et le Seigneur absolu de l'un et de l'autre. Il faut donc un culte extérieur. Le catéchisme continue. Une dernière question. Peut-on avoir un culte extérieur sans culte intérieur ? Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Réponse du catéchisme, non. Le culte extérieur ne peut absolument pas subsister sans le culte intérieur. Parce que s'il n'en est pas accompagné, il reste privé de vie, de mérite et d'efficacité. Pas de vie, pas de mérite, pas d'efficacité. Comme un corps sans âme. Notre sainte religion est avant tout affaire de vie intérieure, d'amour de notre Seigneur. À condition de comprendre ce mot dans son acception la plus noble, un amour de volonté, faire la volonté de Dieu par amour pour lui. En effet, l'amour de Dieu ne consiste pas essentiellement dans la pratique matérielle de certains actes religieux, comme de réciter certaines prières, ou même d'aller à la messe en latin le dimanche. Si derrière ces actes, il n'y a pas un réel amour de Dieu, cela ne vaut rien, ou peu de choses. Ces choses sont nécessaires, comme nous l'a dit le catéchisme, mais il faut qu'elles soient accompagnées d'un véritable culte intérieur. Dans cet ordre d'idées, il nous faut profiter de ce temps liturgique du carême et bientôt de la Passion pour nourrir ou recouvrir une vraie vie intérieure, cette vie intérieure surnaturelle qui est en nous la vie de Jésus lui-même. Tout d'abord, par une vraie vie de prière personnelle, prière du matin et prière du soir, avec une vraie dévotion pour le bon Dieu. Le chapelet, avec la méditation des mystères du rosaire, en cherchant à atteindre le cœur de cette dévotion du chapelet, la méditation des faits de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Très important. Si on dit son chapelet sans penser au mystère, quelle perte ! Quelle perte ! La pratique des oraisons jaculatoires aussi. Dans la prochaine Lettre aux Amis, vous aurez un petit article sur saint Philippe Néri. Vous verrez dans cette Lettre aux Amis qu'il avait beaucoup d'oraisons jaculatoires qu'il répétait à longueur de journée pour se maintenir dans la ferveur. Et il les recommandait à ses disciples. N'hésitez pas à en prendre certaines pour les faire vôtres. Et puis les communions spirituelles, pour garder la dévotion à la messe, à l'Eucharistie. Même quand on ne va pas à la messe dans la semaine, les communions spirituelles, très importantes. Et puis voyez une dernière chose aussi, la pratique de la charité entre nous. Les cas sont rares, mais il y a quand même des cas où on entend dire des personnes qui quittent la tradition pour rejoindre l'église conciliaire, ou pas pour des questions de liturgie, rassurez-vous. Ça n'attire pas beaucoup. Mais parce qu'ils trouvent qu'il y a plus de chaleur humaine dans certaines églises conciliaires que dans certaines chapelles de la tradition, un peu froide, qui manque de chaleur de, cette charité, de la charité de la charité de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette importance de s'entraîner, comme disait Saint-Thérèse de l'Enfant Jésus. Lisez les introductions des épîtres de Saint-Paul, comment il s'adresse aux chrétientés auxquelles il s'adresse. Vous verrez la chaleur du cœur de l'apôtre. Et là, nous avons tous un effort à faire pour pratiquer cette charité entre nous, pour avoir ce culte intérieur, cette vie de notre Seigneur qui doit se manifester à l'extérieur également. Pas un culte froid, des pratiques, on assiste à la messe le dimanche, on rentre chez soi et on fait attention à personne. Demandons à Saint Paul de pratiquer ce culte en esprit et en vérité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.